Pour cette invitation et pour cette occasion d'échanger avec vous sur des aspects qui me décentrent aussi de ce que je peux proposer habituellement. Parce qu'effectivement, donc, je vous ai mis un titre qui parle de pédagogie coopérative. Je l'ai formulé pour travailler le climat scolaire, soutenir la motivation et la santé psychologique des élèves, parce que j'ai entendu la demande d'ouvrir autre que la réussite scolaire simple, mais d'ouvrir vers quelque chose de plus large. Mais vous allez voir au fur et à mesure de ma présentation que je travaille en sciences d'éducation à l'Université de Genève, qui a la spécificité pour la Suisse, mais aussi peut-être pour la France, de former les enseignants à l'université. Donc une partie de mon discours vient du fait que je me suis intéressée à comment des principes de pédagogie coopérative, l'enseignant peut s'en emparer pour proposer des actions, des choses à mettre en place pour que les élèves puissent devenir un peu plus acteurs de leur apprentissage. Donc je vais être beaucoup centrée sur les enseignants. Et sur les enseignants avec l'idée que derrière on va avoir une responsabilité partagée entre les élèves et les enseignants, et parfois aussi, j'ouvrirai un petit peu sur ce point-là, sur la collaboration entre les enseignants. L'idée pour moi, effectivement, c'est que les interactions sociales, les interactions entre élèves, sont au cœur des situations d'apprentissage. Sont au cœur des situations d'apprentissage, et que l'objectif, ça va être pour moi d'engager les élèves, tous les élèves de la classe dans les activités et de les engager à la fois socialement et cognitivement. Du coup, le travail de groupe, on va venir un peu plus sur ce que j'entends par ce travail de groupe, pourrait être un outil pédagogique intéressant pour favoriser ces interactions entre élèves au service des apprentissages, mais plus largement aussi au service de la motivation et du bien-être des élèves. L'idée, effectivement, c'est que ces interactions entre élèves et des modalités pédagogiques qu'on peut proposer, comme Laurence l'a suggéré à la fin de sa présentation, pour proposer des interactions dans la classe, ces interactions vont être à la fois au service de l'intégration sociale, c'est-à-dire qu'elles peuvent favoriser la qualité des relations entre les élèves. Ça va permettre d'avoir des régulations par les pairs, effectivement, lorsque j'observe comment font les camarades, ce qui leur arrive, mais aussi les retours que mes camarades me donnent sur mon comportement, ça me permet de savoir un peu comment je vais me comporter pour favoriser cette intégration sociale, et ça va favoriser un sentiment d'appartenance, d'accord, ou de soutien, on pourrait revenir aussi sur ces aspects-là. Donc, on va avoir des interactions entre élèves au service de cette intégration sociale et pour moi aussi au service de l'intégration scolaire ou de la réussite scolaire, avec le fait que si on leur propose de travailler ensemble, d'être acteurs, de verbaliser, de travailler ensemble, eh bien, ça peut favoriser la qualité des apprentissages scolaires. Avec des retours aussi sur des interactions sur la tâche scolaire, des retours immédiats qui ne sont pas forcément évidents lorsqu'un enseignant doit gérer 20-30 élèves dans une classe. Il ne peut pas forcément donner des retours immédiats à chacun des élèves régulièrement. L'idée ici, c'est lorsqu'on va proposer ces interactions entre élèves, ça leur permet d'avoir des retours beaucoup plus rapides, beaucoup plus fréquents, parfois plus adaptés, parce qu'effectivement, il s'est donné par un pair qui est au même niveau. Et donc, ça va favoriser ces retours plus fréquents. Pour l'enseignant, on a aussi, et moi en tant qu'enseignante, y compris à l'université, j'ai beaucoup recours à cette modalité de travail parce que ça me permet de faire plein de choses avec mes apprenants, qui là sont des étudiants, mais on pourrait le faire aussi avec des élèves. Ça veut dire que ça va permettre, lorsque vous leur proposez d'interagir ensemble, vous de pouvoir circuler, de prendre des informations, d'écouter et de pouvoir intervenir, repérer déjà les difficultés, un peu plus qu'en décryptant les visages, d'accord ? Repérer ces difficultés, repérer aussi ces forces pour pouvoir ensuite les utiliser dans votre enseignement. Ça veut dire que ça peut être des régulations interactives de par l'enseignant quand il passe dans les petits groupes. Il peut réguler, proposer des pistes pour rebondir, répondre à des questions, mais aussi réguler son enseignement, c'est-à-dire avec les informations qu'il a prises, pouvoir rebondir sur certaines notions parce qu'il a réalisé qu'elles n'étaient pas forcément comprises, reprendre, j'y reviendrai par la suite, reprendre des informations qui sont entendues pour alimenter la discussion au service du collectif. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment, dans tout ce que je vais vous proposer, l'idée, c'est de se dire comment j'arrive à favoriser ces interactions entre élèves le plus souvent possible. On va revenir peut-être sur le 80-20 dont Laurence parlait. Et par rapport à cette réflexion que j'ai eue sur la manière de pouvoir structurer ces interactions, l'approche que je vais vous proposer aujourd'hui est une approche qui vient des États-Unis, qui est connue sous le nom de cooperative learning, qui est née dans les années 70. Pardon, on est en France. Dans les années. Je suis française à la base, hein, mais petit lavage de cerveau en passage. Donc dans les années 70. Traduction simultanée, 70 pour la Suisse. Donc, du coup, c'est cette approche-là qui va me permettre de pouvoir avoir des éléments pour réguler, pour structurer ces interactions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la seule approche, mais en tout cas, c'est celle que je vais vous proposer aujourd'hui, parce qu'il se trouve que dans ces années 70, il y a eu une émergence d'un ensemble de travaux convergents qui ont permis d'avoir à la fois des recherches dans les établissements, mais aussi des recherches plus théoriques et un certain nombre de résultats qui permettent d'avancer là-dessus. Petite question, à votre avis, pourquoi il y a eu cet élan dans les années 70 aux États-Unis? Qu'est-ce qui a pu se passer à cette époque-là, dans ce contexte-là, qui a fait qu'on s'est interrogé sur la coopération au service des apprentissages, au service de l'intégration sociale et scolaire. Est-ce que vous avez une petite idée? Je vais attendre 7 secondes, mais il y avait une réponse avant.
La suite de la guerre du Vietnam.
Alors, ça pourrait, mais qui va concerner plutôt ce qui se passe dans les écoles. Une petite idée, s'il vous plaît. Pardon ?
La mixité raciale.
Exactement, la déségrégation. Alors, l'idée, c'était juste de vous poser une question et de voir la dynamique que ça posait et de contraster avec ce que je vais vous proposer de faire après. Ici, effectivement, l'enseignant, il pose une question, il arrive à avoir quelques éléments de réponse, il construit certaines choses avec les élèves, mais on a une, deux personnes qui ont répondu, peut-être d'autres ont réfléchi. Effectivement, on n'est pas en train de favoriser les interactions entre l'ensemble des élèves. On est en train d'essayer d'engager les élèves d'une certaine manière. Donc, ça me permet aussi de souligner pourquoi, effectivement, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de recherches, parce qu'effectivement, on a eu la déségrégation qui a été un défi suffisamment important pour mobiliser simultanément à la fois des enseignants, des éducateurs, des chercheurs, des politiciens, pour essayer de savoir comment faire cohabiter et travailler ensemble des élèves qui, jusqu'à présent, étaient dans des espaces séparés. D'accord ? Donc ça explique pourquoi, effectivement, à ce moment-là, il y a eu un ensemble de travaux. Alors, ces interactions constructives, je vais les appeler constructives parce qu'elles sont au service des apprentissages scolaires et ce sont pour moi des interactions simultanées entre élèves avec une participation de tous les élèves. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les élèves sont prêts et confortables pour pouvoir discuter et qu'on va leur proposer une petite structure pour s'assurer que tous participent et que ce n'est pas simplement l'un qui va prendre tout le temps de parole pendant que les autres écoutent. Et en termes de quel type d'interaction on va essayer de favoriser, on va favoriser pour moi des interactions constructives à chaque fois qu'on va proposer aux élèves de discuter des contenus, d'expliciter leur démarche, de discuter de leur stratégie, d'échanger sur la manière dont ils s'y prennent. Tout ça, effectivement, dans un contexte où on va valoriser le soutien et les efforts des uns et des autres, et on va amener les élèves à résumer des informations, à s'enseigner, s'expliquer des informations, co-construire ensemble, confronter et argumenter sur des divergences de points de vue. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ces interactions, mais en toile de fond, c'est vers ça que je vais essayer de tendre dans cette pédagogie coopérative, c'est-à-dire de créer ces occasions d'interaction simultanée constructive. Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, pour que ça fasse encore plus sens, je vais vous proposer, même si la disposition s'y prête qu'à moitié, de faire cette mise en entrée en vous proposant des interactions simultanées, que j'espère constructives. C'est en vous posant cette question. Alors, si vous êtes enseignant, lorsque vous proposez un travail de groupe, si vous n'êtes pas enseignant, vous avez d'autres fonctions et que vous êtes amené à proposer parfois aux personnes de travailler en équipe, lorsque vous proposez un travail en équipe, à quoi faites-vous attention? Je vais vous proposer dans un premier temps, s'assurer que tout le monde est prêt et confortable à échanger, de prendre 2 minutes individuelles, j'ai un chrono, de prendre 2 minutes individuelles pour formuler sur un bout de papier, sur un ordinateur, sur ce que vous voulez, mais de formuler des éléments de réponse, de lister tout ce à quoi vous pourriez faire attention lorsque vous allez proposer un travail en équipe ou un travail de groupe. Est-ce que la consigne vous semble claire? Oui, 2 minutes. Si jamais vous n'avez pas eu cette occasion-là, c'est à quoi vous auriez aimé qu'on fasse attention lorsqu'on vous a proposé un travail de groupe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? À peu près. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger avec votre voisin ou votre voisine par deux. Donc, vous pouvez bouger pour retrouver une personne avec qui échanger ou par trois selon la configuration de manière à ce que tout le monde ait l'occasion de pouvoir échanger. En duo, avec votre voisin ou votre voisine ou en trio, si besoin, de partager, c'est-à-dire résumer, expliquer ce que vous avez marqué, écouter, compléter. Et pour ce faire, je vais vous proposer de le faire à tour de rôle, un ping-pong. C'est-à-dire que à tour de rôle, il y en a un qui va présenter un élément et ensuite c'est l'autre personne qui va présenter un autre élément qu'il a écrit et ainsi de suite. Je propose que la personne qui, j'ai toujours très bien l'été à réaliser, qui est à ma gauche, donc à droite pour vous, commence de manière à ce que vous ne passiez pas 5 minutes à savoir qui commence. Donc la personne de gauche commence et dit un élément. Pendant ce temps, l'autre écoute et vous complétez. Et je vous donne 3 minutes et pour vous aider à vous repérer, je suis très joueuse. Vous avez... C'est parti!
de la petite enfance jusqu'à la journée.
D'accord. Alors moi je suis formateur.
Je tends l'oreille pour savoir ce que vous dites. Pong.
C'est bon, j'ai mis.
Et vous avez pu compléter aussi ?
C'est un mix entre les garçons et les bons, pas forcément entre les bons et mauvais aussi.
D'accord. Est-ce que vous êtes arrivé à vous retrouver pour que chacun puisse échanger ? Non, vous avez fait tous en brochette.
Ouais.
Donc ping, pong, ping, pong, pong, c'est ça ?
Et du coup, on a à peu près les mêmes.
Qu'est-ce qu'il y a ?
On disait qu'il fallait que le cadre soit posé, hein, les consignes soient claires.
D'accord.
En amont. De voir si chacun a compris, hein, dans la séance.
D'accord.
Le lieu de l'accueil.
La configuration.
C'est la structuration de l'espace du lieu.
D'accord.
Les personnalités aussi, chacun.
Bah après, ça s'est observé pendant
la
stratégie de chacun.
Des fois, tu peux savoir un peu sur qui... Tu peux optimiser, à qui donner la parole, qui faire taire un peu.
Enfin, le stratège.
Et les stratégies de régulation.
Voilà.
Curieux.
Un regard curieux et bienveillant. Des oreilles bienveillantes, j'y reviendrai.
Lancer le travail, on va lancer le débat.
Merci. Alors, merci à vous. Alors, vous avez vu qu'effectivement, je vous avais mis un petit timing qui défile avec une petite sonnerie. Ça peut être une manière de gérer les allers-retours. Donc là, l'idée, c'est de vous mettre en interaction simultanée, de pouvoir passer, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis effectivement, à un moment donné, de repartir en collectif. Alors, ce moment de, pour arriver des fois à du 80-20, où je ne sais pas si on respecterait, en tout cas aujourd'hui, on va faire cette première activité à titre d'illustration, et après on sera plutôt, c'est moi qui cause. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir gérer des allers-retours. Alors, vous êtes de bonne composition, vous êtes intéressé par le thème, vous jouez le jeu. Régulièrement, moi, quand j'ai vu ces stratégies mises en place au cours de formation, c'est... Alors, le formateur ou l'enseignant lève la main et à ce moment, tout le monde doit s'arrêter en levant la main. C'est quelque chose avec lequel, moi, j'étais particulièrement pas confortable. Je vais vous expliquer après des choses sur l'importance du climat pour moi. C'est un peu comme si, stop, maintenant, c'est à moi, je reprends la parole et je vous coupe la parole. Donc, moi, j'ai eu de la peine au départ à mettre ces moments où je proposais aux apprenants d'interagir ensemble. Et au fur et à mesure, j'ai développé un petit stratégie que je vais vous proposer de mettre en place sur la deuxième partie. C'est-à-dire que j'annonce toujours les temps, de manière à ce que vous puissiez savoir combien de temps vous avez à disposition pour pouvoir discuter ensemble. Et quand j'arrive au bout de l'activité, je vais effectivement me déplacer avec l'ensemble de la main levée. Ça ne veut pas dire que vous vous arrêtez, parce qu'autrement c'est comme si je vous coupe la parole, mais ça veut dire que je vous indique qu'on va gentiment au bout de l'activité et au fur et à mesure, je vais baisser les doigts. Et quand je commence à baisser les doigts, c'est que je vous demande gentiment de terminer votre idée, mais vous avez le temps, de finir votre idée et au fur et à mesure de terminer votre phrase. Et quand mon petit doigt clignote, j'ai besoin de vous. C'est-à-dire que si vos collègues sont partis dans une discussion enflammée, de leur faire un petit signe, de manière à ce qu'on puisse repartir tous ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose avec lequel je suis très confortable, notamment quand je dois le gérer en amphi avec 200 étudiants, parce que si je ne le fais pas, globalement, ça continue à discuter, j'en ai perdu la moitié, je ne les récupère jamais. Donc, pour pouvoir proposer régulièrement ces allers-retours avec une question à creuser, un élément à anticiper ou un point plus difficile sur lesquels ils veulent que je revienne, ben, j'ai trouvé ce système d'allers-retours que je vous propose de tester maintenant. Sur la dernière partie de cette petite activité, je vous propose, en 2 minutes, on le fait un peu en accéléré, d'essayer de créer une réponse ensemble avec vos partenaires. Donc parfois, vous pouvez aussi, 5, ça commence à faire beaucoup, d'accord, mais de pouvoir essayer de créer une nouvelle réponse et de regarder si dans les éléments que vous avez listés, partagés, échangés, si on pourrait éventuellement mettre certains éléments qui touchent plutôt la manière d'organiser concrètement sur le moment le travail de groupe, le travail en équipe, et des éléments qui sont plutôt pour préparer les apprenants, les élèves, les enfants à coopérer, ou même les adultes, à coopérer. Donc, est-ce qu'il y a certains éléments qu'on peut mettre dans la gestion du travail d'équipe sur le moment et des éléments qu'on mettrait sur la préparation à coopérer? Ça vous semble clair? Donc, je vous propose effectivement de regarder si on a des éléments plutôt pour préparer les apprenants à coopérer ou pour organiser le travail d'équipe en 2 minutes. Et vers la fin, j'arrive avec ma petite main. Et ça, vous le mettez plutôt où, le nombre de personnes dans
là,
le groupe
était, là, on était plus sur la préparation, là, pour la coopération, pour effectivement la préparation, c'est l'important de faire des moments de connaissance pour être
en voilà. Moi, le nombre, je le mettrais plutôt effectivement dans la gestion. Voilà, c'est pour ça que je vous fais activer.
Et la présentation, alors, vous avez dit l'avant.
La présentation.
Que les personnes puissent se présenter. Parce que quand on se connaît,
je leur mets dans la préparation à coopérer.
Ouais, c'est ça.
Merci à vous. Alors, l'idée, effectivement, c'est que la suite de la présentation, je vais vous l'organiser sur ces différents principes. Donc, c'est l'idée aussi était de vous faire activer. Est-ce que cette organisation, elle correspond à ce que vous attendiez? Sachant qu'on est bien d'accord, on va extrémiser un peu les choses, parce que dans la vraie vie, on a tous ces principes qui sont simultanément à l'œuvre en même temps. Vous allez voir pourquoi je vous les présente de manière aussi séparée. Ça permet pour moi de différencier ce qu'on va retrouver sous l'appellation régulière d'apprentissage coopératif et ce qu'on pourrait appeler, d'un autre côté, pédagogie coopérative avec des principes supplémentaires. Alors, dans ce que vous avez proposé, effectivement, les premières choses que j'ai entendues, ce sont... Je vous remercie parce que quand je suis passée, j'ai entendu des gens qui se disent « Non mais attends, on ne va pas commencer à discuter tout de suite. Toi, tu es qui? Tu viens d'où ?» Effectivement, des gens qui ont pris le temps de se présenter et de dire d'où ils parlaient. On en reviendra, on en rediscutera quand on va parler du climat. Et ensuite, on a eu effectivement des personnes qui ont discuté de la composition du groupe, du nombre de personnes dans chaque groupe. Donc c'est une des premières questions qu'on va devoir se poser effectivement lorsqu'on va proposer du travail en équipe ou en groupe dans une classe, c'est combien et qui? Alors, c'est un des principes effectivement qu'on va pouvoir retrouver pour pouvoir favoriser ces interactions entre pairs et des interactions individualisées. On va avoir recours à une tâche de groupe, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer, et ça, ça me paraît vraiment anodin, mais je le dis quand même, une tâche qui soit réellement une tâche de groupe, ça veut dire qu'il ne peut pas être fait individuellement et qui nécessite au moins un apport de toutes les personnes. Ça paraît évident, mais des fois, j'ai mes enseignants qui me disent « Oui, mais ils n'ont pas voulu faire. Est-ce qu'ils pouvaient faire tout seuls ?» Ben oui. Bon, ben alors, peut-être qu'ils avaient raison de ne pas vouloir faire ensemble. Donc, une tâche de groupe et des petites équipes. On pourrait passer toute la fin de la présentation, voire toute une journée à débattre de la composition des équipes, c'est pas ce que je vais vous proposer ici. Mais l'idée, effectivement, de se dire qu'on va faire entre 2 et 5 personnes. Pour moi, 5, c'est déjà beaucoup. 2, c'est un bon début. C'est beaucoup plus facile de faire et d'interagir à 2 que d'attendre que ça se passe. Donc, 2, c'est déjà un groupe pour moi. C'est déjà une équipe. Ensuite, oui, il n'y a pas de formule magique. Et du coup, comme il n'y a pas de formule magique, moi, j'ai trouvé ma réponse avec laquelle je suis confortable. C'est tous mes autres principes vont permettre de structurer le travail de groupe de manière à ne pas avoir à me poser trop la question de qui je mets dans mes groupes. Donc, structurer le travail de groupe comme une alternative à la question de qui je mets avec qui. Et puis, peut-être que ça me permet juste de souligner, parce que si vous ouvrez des livres sur la pédagogie coopérative, très régulièrement, vous allez avoir des groupes hétérogènes, hétérogènes à tout craint, en termes de niveaux sociaux, de genre, de niveaux scolaires. Et on a même des auteurs comme Slavin qui vont proposer vraiment une manière très structurée de faire. Pour moi, il n'y a pas forcément de raison en termes de ce... Quand je regarde les recherches sur la composition des équipes et les liens avec les apprentissages, il n'y a pas de formule magique et l'hétérogénéité n'est pas forcément la meilleure dans toutes les situations. Donc on peut s'autoriser à prendre de la distance et à ne pas céder à cette prescription d'hétérogénéité qui est souvent proposée pour des raisons de valeur, c'est-à-dire, oui, il faudrait que tout le monde arrive à travailler avec tout le monde. C'est pour des questions de valeur, pas forcément en termes d'apprentissage scolaire. Donc, on peut prendre un peu de distance. Moi, j'aime beaucoup les groupes aléatoires et notamment de créer une activité pour former les groupes aléatoires parce qu'ils sont plus penchés sur qu'est-ce qu'ils doivent faire et vers qui ils doivent retrouver plutôt qu'avec qui ils vont travailler directement. Ça détourne l'attention. Donc, une tâche de groupe en petites équipes. Et nos deux principes clés ensuite vont être, d'une part, la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire s'assurer que chacun fait de son mieux pour faire sa part de travail. Et vous voyez qu'il a fait de son mieux. La, L'idée des efforts et pas des capacités, elle est particulièrement importante pour moi. Je fais de mon mieux pour faire ma part de travail avec, effectivement, très souvent, quand on parle d'apprentissage coopératif, on dit « oui, alors il y a des rôles, le responsable du matériel, le responsable du temps ». Oui, ça, c'est des responsabilités qui sont des responsabilités fonctionnelles qui permettent à l'équipe de bien fonctionner et à l'enseignant de s'y retrouver, c'est déjà énorme. Par contre, on peut aussi ouvrir sur des responsabilités qu'on va appeler plutôt cognitives ou sociales qui deviennent au service des apprentissages. D'accord ? Effectivement, celui qui va s'assurer que tout le monde a compris, celui qui s'assure que tout le monde discute, tout le monde peut émettre son point de vue, c'est des choses qui vont faciliter la qualité des apprentissages. Et du coup, ces responsabilités, elles vont être utilisées à la fois pour le fonctionnement de l'équipe, mais aussi pour la progression dans la tâche, et la progression des apprentissages, c'est-à-dire des activités cognitives qui vont être transformées en responsabilités, qui vont tenir à tour de rôle, ou pour réguler les comportements aussi. Des fois, quand on a un élève qui prend un peu trop de place, le mettre dans le rôle d'observateur, c'est pas si mal, d'accord ? Mettre un élève qui va pas oser forcément prendre la parole, le mettre dans le rôle de celui qui doit donner certaines informations, ça l'aide aussi à rentrer dedans. Donc, des responsabilités. J'ai entendu tout à l'heure en passant, oui, il faut s'assurer de savoir qui va faire le compte-rendu, ou peut-être de s'assurer que tout le monde est d'accord sur le compte-rendu de manière à ce que n'importe lequel d'entre eux puisse faire ce compte-rendu. C'est aussi une autre manière de gérer cette responsabilité. Pour moi, du côté de l'enseignant, on a deux manières dont on peut travailler cette responsabilisation. Premièrement, du côté de l'enseignant, effectivement, son rôle, sa responsabilité là-dedans, ça va être de rendre possible la participation de tous. Est-ce que tous ont la possibilité de participer et de rendre cette participation nécessaire ? Si la tâche peut se faire sans que j'ai besoin d'intervenir, bon, ben peut-être que je ne vais pas le faire. Si la tâche ne peut pas se faire et que l'activité ne peut pas avoir lieu si je n'interviens pas, à ce moment, ça me pousse à le faire. Et de rendre les apprentissages individuels visibles. Ça, c'est une chose, pour moi, qui est particulièrement importante dans le travail de groupe. Finalement, le produit qu'ils sont en train de faire ensemble, c'est un prétexte. J'allais dire, c'est un prétexte à travailler ensemble. Je ne suis pas chef d'entreprise. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le plus beau produit possible, parce qu'à ce moment, ben, ils ont tout à fait intérêt, ils sont rationnels, à ce que chacun fasse ce qu'il sait le mieux faire. Attends, en plus, il y a des trucs écrits dessus. Ce que chacun fasse ce qu'il sait le mieux faire. Et donc, du coup, il va continuer à progresser là où il est déjà bon. Moi, je suis enseignante. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun progresse là où il a encore de la difficulté. Donc, du coup, de bien véhiculer que ce qui m'intéresse, c'est les apprentissages. Et très souvent, quand on pose la question de l'évaluation, moi, ma solution à moi, c'est de dire effectivement, le travail de groupe, le travail en équipe, c'est un temps d'apprentissage. C'est un temps d'évaluation formative, de retour sur ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, j'évalue individuellement parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que chaque élève a appris et compris de ce travail-là. Donc effectivement, dans rendre les apprentissages individuels visibles, il y a tous ces éléments-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et pour les élèves, c'est l'idée qu'ils fassent des efforts pour atteindre le but collectif et qu'ils se sentent responsables pour aider les autres à faire ces efforts. Il ne veut pas faire. Comment on peut l'aider à faire ? D'accord ? C'est aussi ma responsabilité d'essayer de l'aider à faire. Donc du coup, ça devient des responsabilités partagées entre les élèves et entre élèves et enseignants. Et ça questionne aussi une des plus grosses difficultés qu'on observe dans le travail de groupe, c'est où il y a une répartition inéquitable, chacun ne fait pas la même chose, la même quantité d'efforts. On essaye en amont de structurer la tâche pour qu'il soit amené à se responsabiliser. Et ça va de pair avec le principe qui est au cœur de la coopération, qui est l'interdépendance positive, liée au but, aux objectifs. Et c'est l'idée que tout s'offre à la réalisation commune d'un objectif pour la réussite de l'équipe. Donc on va tous dans la même direction, on tire tous à la même corde. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé, effectivement, quand on pose une question et que vous répondez sur la base du volontariat, est-ce que ça peut être considéré comme de l'indépendance ? Ou de l'interdépendance positive ou de l'interdépendance négative. Quand je pose la question, des fois on dit « bon, bah non, c'est de l'indépendance parce que les gens vont répondre et puis voilà, ils ont répondu pour eux ». Certains vont me dire, non, c'est de l'interdépendance négative avec, positive, avec la définition, ce que fait une personne a des conséquences, affecte ce que font les autres ou ce qui arrive aux autres. Sous-entendu, s'il y en a un qui donne des éléments de réponse pertinents, dans le meilleur des cas, eh bien, ça aide l'apprentissage de l'ensemble des autres qui écoutent cette réponse. Donc, ça pourrait être perçu comme de l'interdépendance positive. Le fait que certains élèves donnent des bouts de réponse aide les autres à apprendre. Mais peut-être aussi que dans nos sociétés, dans notre système éducatif, ça peut être perçu comme de l'interdépendance négative. Ah oui, mais s'il y en a un qui dit la bonne réponse, ben l'enseignant, il va peut-être s'arrêter, il va peut-être pas interroger les autres. Donc, ça veut dire que les autres, c'est une occasion manquée de donner la bonne réponse. Donc, vous voyez que c'est des petites choses comme ça, quand on va parler du climat, c'est tout ce genre de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Dans la manière dont on va gérer son enseignement, on va introduire un climat qui va favoriser la coopération ou pas. D'accord ? Et donc, c'est ces éléments-là. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à créer cette interdépendance positive que les élèves perçoivent, qui sont positivement liés les uns aux autres, et que plus l'un apprend, plus l'un progresse, plus ça aide les autres à apprendre et à progresser. Donc, renforcer les liens positifs et la perception de ces liens positifs entre les membres du groupe, de l'équipe. Et on peut le faire au niveau des raisons pourquoi on travaille ensemble, donc l'interdépendance liée aux résultats, donc qu'ils perçoivent un but commun. Je vous l'ai mis dans la bulle parce que pour moi, c'est indispensable. On peut jouer sur toutes les autres dimensions. S'ils ne perçoivent pas ça, il y a peu de chances qu'ils embarquent dans la coopération. Au niveau des récompenses, c'est en débat, mais effectivement, c'est les conséquences de l'atteinte du but, comment les conséquences de l'ensemble des membres sont liées les unes aux autres. Et aussi au niveau des moyens, c'est-à-dire les façons dont on va travailler ensemble, avec la manière dont on va distribuer les ressources à l'intérieur du groupe ou dont on va utiliser les différentes ressources à disposition dans le groupe, la manière dont on va répartir les différentes tâches, la manière dont on va introduire différents rôles complémentaires. Et ça, pour moi, c'est effectivement rendre explicite la complémentarité et c'est le boulot de l'enseignant. De structurer cette interdépendance. Ce n'est pas simplement « débrouillez-vous, je vous donne une tâche ». Ce qui m'intéresse, c'est le produit à la fin. Organisez-vous comme vous voulez. Tout le processus de l'organisation fait partie, pour moi, du travail de l'enseignant qui va structurer, donner des consignes et organiser sa tâche de manière à impliquer cette interdépendance positive et cette responsabilisation. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Et du coup, c'est pour moi, je vous les ai mis sur organiser le travail en équipe, c'est vraiment des choses qu'on va faire sur l'organisation même de la tâche, mais aussi ça m'arrange pour la présentation de les regrouper ensemble, parce que ces principes que vous voyez là sont les principes finalement communs qu'on va retrouver dans toutes les méthodes qui sont appelées méthodes coopératives, méthodes d'apprentissage coopératif. On va retrouver ces éléments-là avec l'idée qu'on a un travail de groupe structuré par l'enseignant ou l'enseignante, de manière à viser deux objectifs qu'on va toujours avoir en parallèle, un objectif plutôt social, un bon fonctionnement au sein de l'équipe, et un objectif cognitif, un travail approfondi et efficace sur les objets disciplinaires. Donc, on retrouve ces principes communs dans les différentes méthodes. En vous écoutant, il y a d'autres choses que vous avez mentionnées et tout ne se passe pas que ici. Effectivement, vous avez parlé du fait que c'était important que les personnes puissent se connaître, se sentir à l'aise pour pouvoir travailler ensemble, l'importance du climat. Et effectivement, pour moi, ici, on est sur ce que j'appelle l'apprentissage coopératif, mais on peut aller vers ce qu'on pourrait appeler une pédagogie coopérative, c'est-à-dire qui va englober d'autres éléments, et là-dedans, j'y mets les éléments pour préparer les élèves, les apprenants, à coopérer. Avec l'idée que, un, ils n'ont pas forcément envie, ou même s'ils ont envie, effectivement, ils ne savent pas forcément comment le faire. Et donc, on va essayer de les prendre aussi par la main avec ces éléments essentiels pour préparer les élèves à coopérer. Alors, rapidement, ces principes, on peut avoir les habiletés coopératives. Tout à l'heure, Laurence a discuté, parfois les élèves ne savent pas comment il faut se comporter, ne savent pas comment faire, quoi faire. Pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces principes de pédagogie coopérative, c'est qu'ils poussent les enseignants à expliciter. à expliciter ce qui est attendu, à expliciter comment faire, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus clairs dans les modes d'emploi et en travaillant en Suisse avec ce qu'on appelle les enseignants en charge du soutien pédagogique, c'est-à-dire des enseignants qui vont prendre les élèves en difficulté, on se rend compte qu'effectivement, souvent, les élèves en difficulté, ils n'ont pas décodé certains implicites. Les élèves qui fonctionnent bien, de toute façon, quoi que vous fassiez, ils vont s'en sortir, ils vont arriver à décoder, ils vont arriver à avancer. Par contre, certains élèves, ils n'arrivent pas forcément à décoder les implicites et donc, du coup, comprennent ces principes ou d'autres. Il se trouve que ceux-là font partie de la pédagogie coopérative, donc c'est ceux-là sur lesquels je vais mettre l'accent. Mais ce qu'on a derrière, ça va être l'idée d'expliciter les modes d'emploi, d'expliciter notamment comment on peut travailler ensemble, c'est-à-dire quelles sont les habiletés coopératives qui sont nécessaires. Et peut-être que pour moi, ici, c'est vraiment mon entrée va être plutôt centrée sur quelle est d'abord la tâche qu'ils ont à accomplir en groupe. Et ensuite, pour réaliser cette tâche, est-ce qu'il y a une ou quelques habiletés coopératives qui sont particulièrement nécessaires pour bien travailler ensemble? Et si oui, à ce moment, on va pouvoir travailler cette habileté coopérative de manière explicite, alors sous forme de jeu de rôle, sous forme de discussion collective. Chacun va prendre l'entrée qu'il souhaite, mais l'idée, effectivement, c'est pourquoi travailler cette habileté coopérative et comment? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça a un côté un peu mécanique au départ, mais effectivement, donner ce mode d'emploi et indiquer très clairement qu'on va observer aussi comment il se comporte. Et donc, l'enseignant, quand il passe, peut aussi donner des retours sur ces habiletés coopératives qui sont travaillées, anticipées. Donc, ces habiletés coopératives, et du coup, c'est aussi le prétexte à les faire réfléchir sur comment elles ont fonctionné. C'est pour moi un des principes de cette pédagogie coopérative aussi, qu'on appelle parfois objectivation en français. Moi, je préfère appeler réflexion critique sur le fonctionnement. L'idée, c'est de les faire réfléchir sur leur fonctionnement et sur le fonctionnement des équipes, avec en toile de fond que ça ne se passe jamais forcément bien du premier coup. L'intérêt de réfléchir sur ce qui a bien fonctionné et ce qu'on peut améliorer, ça permet de créer une dynamique positive pour améliorer pour la prochaine fois. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir les élèves sur leur fonctionnement. Et comme on a fixé deux objectifs, ben, de les faire réfléchir sur ces deux objectifs, sur l'atteinte de l'objectif social, sur l'atteinte de l'objectif cognitif. Donc, ce qui a été utile, ce qui peut être amélioré, d'accord ? Les Johnson vont parler de deux qui brillent, deux choses qui ont été faites, qui ont bien fonctionné, qui sont intéressantes à garder, et une chose à polir qu'on pourrait améliorer. Et du coup, ça devient un objectif pour la fois d'après. Vous vous souvenez, on a dit que ça, on n'était pas arrivé. On va pouvoir le travailler dans cette prochaine activité. Et du coup, l'enseignant va aussi donner des retours basés sur son observation. Donc effectivement, si possible, des retours, Laurence l'a dit, immédiats, descriptifs, d'accord ? Si on dit simplement « vous avez très bien travaillé aujourd'hui », oui, mais quoi ? Comment je peux rebondir là-dessus ? Positif, ça ne veut pas dire qu'on va créer du positif, mais ça veut dire qu'on va prendre les occasions de souligner des choses positives, concrètes et spécifiques. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, ça permet de créer une étape supplémentaire qu'on peut remobiliser pour la fois d'après. Et le dernier élément, celui sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est le climat de classe et l'esprit d'équipe, qui rejoignent des éléments dont Laurence a déjà parlé, mais là on va les colorer coopération. Donc effectivement, ça va être l'idée de créer un contexte. Alors, on pourrait dire créer un contexte qui favorise l'estime de soi. Moi, je vais l'appeler créer un contexte pour que les élèves osent s'exprimer et prendre des risques. Parce qu'effectivement, si le travail de groupe, c'est une occasion de verbaliser, d'apprendre, c'est aussi une occasion où on va pouvoir, où on doit prendre des risques, s'exposer par rapport aux autres, dire des choses, agir. Et on peut avoir quatre grands, je vous l'ai découpé comme ça, je ne suis pas forcément sûre que c'est le découpage idéal, mais à la fois travailler les relations positives entre les élèves, la posture de l'enseignant, prendre en compte qu'on est en train d'essayer d'introduire de la coopération dans un climat qui est compétitif et que la compétition, elle existe et elle est présente dans les classes, quoi qu'on fasse, et d'essayer d'orienter sur une motivation, enfin d'orienter la motivation vers les apprentissages et pas vers les performances. Donc du coup, par rapport au thème de la journée, j'ai pris le parti pris d'aller vous développer un peu plus ces aspects-là sur le climat. Alors, les relations positives entre les élèves, ça revient à ce que certains d'entre vous ont mis en place ou verbalisé, c'est-à-dire effectivement déjà se connaître, prendre le temps d'être confortable avant de passer à la tâche scolaire. Et ça, dans les ouvrages sur l'apprentissage coopératif, on va trouver un certain nombre de propositions, d'activités pour travailler le climat. Donc pour travailler la confiance, la connaissance des uns, des autres, la communication, le respect, l'acceptation, l'ensemble des valeurs qui vont permettre de faciliter la coopération, avec des activités pour briser la glace, se connaître les uns les autres, mais aussi des activités pour établir ce climat de confiance entre les élèves. Ici, on est vraiment entre les élèves, et établir des normes, des objectifs dans les manières de travailler ensemble. On peut avoir aussi dans les activités, introduire des rôles, des responsabilités au niveau social, c'est-à-dire celui, celle qui encourage, qui motive, et pas simplement qui va gérer la tâche cognitive ou le fonctionnement de l'équipe. Et également des activités qui peuvent être très courtes, ça peut être juste une minute, mais avant de vous mettre ensemble, de partager quelque chose qui remet les membres de l'équipe ensemble pour qu'on soit prêt à se mettre en route dans l'activité. Donc, des éléments sur les relations entre les élèves. Sur la posture de l'enseignant, il y a énormément de choses à dire. Je vous ai sélectionné que certains éléments. Et c'est toutes ces petites choses qu'on va faire qui vont permettre, qui vont faciliter ou pas cette coopération. Donc, en termes de climat et de coopération. Et effectivement, je l'ai dit juste avant, vraiment prendre en compte que ne suffit pas de leur proposer de travailler ensemble pour qu'ils soient tous super enthousiastes de le faire, d'accord ? Oui, c'est une prise de risque et de faire attention comment on le ménage. Tout à l'heure, je vous ai dit des interactions simultanées, mais faire attention dans notre structure qu'ils soient prêts à partager. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, parfois, dans des groupes, on voit les élèves qui commencent à discuter, et puis il y en a un qui dit « Oh, je ne sais pas ce que je vais dire, ou ça va être mon tour, je ne sais pas ce que je vais dire. » Dans ces cas-là, il n'est absolument pas disponible pour écouter les autres. Le simple fait, je vous ai demandé, vous marquez sur un bout de papier, sur votre ordi, sur un bout de feuille, vous marquez 2-3 éléments. Ça ne paye pas de mine, c'est rien, ça prend 30 secondes de plus. Mais l'idée, c'est noter quelque part. Et ensuite, quand c'est mon tour, je sais comment le dire. Donc, c'est tout un ensemble de stratégies que certainement vous faites en tant qu'enseignant, que beaucoup d'enseignants font, mais effectivement de se dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit le plus confortable possible pour prendre cette prise de risque. La relation de confiance, on en a parlé entre élèves, mais entre l'enseignant et les élèves, et ça va dans les deux sens. L'enseignant qui doit aussi arriver à faire confiance à ses élèves, qu'ils peuvent travailler ensemble et qu'ils peuvent apprendre ensemble. Si je leur demande de travailler sur quelque chose, non, ils ne vont pas aller parler du match de foot de la veille. Ou peut-être qu'ils peuvent le faire dans les premières minutes. Allez, hop, on a remobilisé tout le monde, on passe à la tâche maintenant. Donc, faire confiance à nos élèves qu'ils peuvent travailler ensemble et qu'ils peuvent s'apporter des choses pour l'apprentissage. Mais aussi que les élèves fassent confiance à l'enseignant. Et ce qui est un peu difficile, c'est qu'il faut très très longtemps pour construire cette confiance et il suffit d'une toute petite chose, un tout petit accroc pour que cette confiance, elle n'existe plus. Donc bien faire attention, tout ce qui peut être interprété comme un piège de « oh mais on va se faire avoir » ou « ah non, c'était pas tout à fait ça qui était dit dans les consignes » ou... Et honnêtement, même moi à l'université, des fois je suis un peu surprise de voir, je dis « mais par quelle école ils sont passés pour arriver dans cet état ?» Globalement, les premières fois, je disais, bon, voilà les objectifs d'apprentissage, donc on va rien. Et puis, dans les travaux, c'est ces objectifs d'apprentissage que j'évaluerais. Et ils étaient très précis. Puis, première année où j'ai fait ça, je ne comprenais pas, ça freinait. Jusqu'à un moment donné où il y a un élève, un étudiant qui a dit, mais madame, c'est où qu'on va se faire avoir? Je dis, pardon, il dit, non, mais vous ne pouvez pas nous dire que c'est ça que vous allez évaluer et n'évaluer que ça. Donc, ce qui veut bien dire que dans tout le parcours scolaire, effectivement, la relation de confiance et de ce qu'on nous dit et est-ce que ça se réalise vraiment, elle peut être parfois un peu compliquée. Ce qui rejoint effectivement cette transparence, donc on l'a vu avec les habiletés coopératives, avec la réflexion sur ces habiletés, sur la manière de fonctionner, c'est l'idée d'expliciter ce qui est attendu dans la classe en termes de comportement et puis en termes de relations aux autres. On va être très explicite, ça permet de savoir où on va. Le droit à l'erreur qui permet de progresser. Ce que je relis moi avec la proximité de l'enseignant avec des oreilles bienveillantes. Ça veut dire quoi? Quand on passe, quand on donne l'occasion aux élèves, aux enfants, de verbaliser des choses, et qu'on est en train de circuler, et qu'on entend, oui, on peut répondre aux questions, mais on peut aussi utiliser tout ce qu'on entend pour valoriser la parole de chacun. Et pour moi, ça devient une dynamique assez différente que quand vous posez une question en collectif, il y en a qui vont vous répondre. Qui va vous répondre? Ceux qui pensent que leur réponse est à minima acceptable. Donc, certains. Et c'est ça qu'on donne en disant c'est ce qui permet de faire avancer la classe. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je circule, y compris avec mes étudiants, c'est d'aller rebondir sur tout ce que j'ai entendu. Dire, ah, ça, je vous ai entendu parler de ça. Alors, on va revenir parce qu'effectivement, je n'ai pas dû être très claire. Là-dessus, j'aimerais qu'on reprenne cette notion-là. Donc, je vous remercie d'avoir dit ça. Ça me permet de penser qu'on va retravailler ça. Ou, oh, ça c'est super, il y en a un qui a donné une définition, je lui ai demandé, il est d'accord que je la redonne, et donc du coup, ça vous permet peut-être de mieux comprendre. Et ce qui, pour moi, ce qu'il y a là derrière, c'est que du coup, tout ce que vous entendez en passant, les mauvaises compréhensions, les erreurs, c'est chouette, ça devient une occasion de mieux apprendre pour tout le monde. Et du coup, ça permet aussi de valoriser les contributions de chacun, y compris les mauvaises compréhensions, y compris les questions. Moi, quand je passe, je réponds aux questions. Je ne me prive pas de répondre aux questions. On a des personnes qui, effectivement, disent « Non, 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 l'enseignant doit vraiment être en retrait, on les laisse se dépatouiller. » Non. Déjà, j'aime enseigner, donc ça me fait plaisir de partager avec eux. Mais après, je vais reprendre aussi en collectif toutes les questions que j'ai eues. Donc, c'est ces éléments-là, pour moi, qui permettent de créer un climat et qui, y compris dans des amphis assez grands, au fur et à mesure, j'ai des gens qui, au fond de l'amphi, vont m'interrompre quand ils n'ont pas compris quelque chose. Ça, je ne l'avais pas avant. Donc, du coup, ça permet de créer pour moi une autre dynamique. Et par contre, effectivement, c'est là où on retrouve cette notion de la coopération entre l'enseignant et ses élèves, mais aussi la coopération entre adultes qui devient nécessaire. Parce que du coup, ces modes d'emploi que vous mettez en place dans la classe, ben, si c'est un mode d'emploi différent à chaque moment, c'est compliqué de s'y repérer. Donc, pour créer ce climat sécurisant, ben oui, le fait qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on puisse proposer les mêmes éléments, c'est des choses. Si dans une classe, quand on dit quelque chose de faux, on dit « ben oui, bien sûr ». Et que dans une autre, on dit « Ah, ça, c'est super !» Parce que j'arrivais pas à voir ce qui vous posait problème. Là, ça me permet de voir. Hop, on rebondit dessus. Donc, posture de l'enseignant. J'ai raccourci mon transparent pendant la pause. Merci, Laurence. Donc, effectivement, des besoins pour apprendre en termes de sentiment de compétence, d'autonomie, de soutien. Je passe. Et pour moi, ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est le statut des élèves et les attentes dans les groupes de pairs. C'est-à-dire que si on propose du travail de groupe, oui, il va y avoir des interactions. Il va y avoir des interactions, mais ces interactions, si on ne structure pas suffisamment, si on ne fait pas attention au statut des élèves dans le groupe, elles ne vont pas forcément être équivalentes pour tous. Et ce que montrent les travaux de Cohen, c'est qu'on a plusieurs sources de statut qui vont intervenir. Alors, effectivement, moi, souvent, je demande à mes enseignants, mais allez, vous êtes en train d'organiser une tâche de maths. Vous voyez que dans les groupes, ce sont ceux qui ont un peu plus de facilité en maths, qui prennent le dessus, qui font des propositions. Est-ce que ça vous dérange? Souvent, ils disent, oh, un peu, mais bon, au moins, ça va dans la bonne direction. OK. Donc là, on est sur des caractéristiques qui sont des caractéristiques sur les habiletés spécifiques. Ça ne les dérange pas tant. Mais ce que montrent les travaux de Cohen, c'est qu'en fait, quelle que soit la source de statut, on va avoir cette différence dans les participations et dans l'influence du groupe, que ce soit des caractéristiques locales de statut, le statut scolaire, simplement d'être bon ou mauvais élève, peu importe la pertinence de la tâche, d'être populaire, d'être le petit rigolo, d'accord ? Des caractéristiques diffuses de statut, des différences en termes culturels, en termes de genre, en termes d'ethnicité, ou des caractéristiques plus spécifiques. Donc, il suffit qu'on ait un statut, que ça va créer une hiérarchie à l'intérieur, dans la classe et à l'intérieur des groupes, et ce qui va faire que ces élèves-là, quelle que soit la source de statut, on va percevoir, on va s'attendre à ce qu'ils aient plus de compétences, même si ce n'est pas lié à la tâche. Et donc, ils vont être davantage sollicités, ils vont davantage prendre de place, Et du coup, comme ils vont davantage verbaliser, expliciter, ils vont davantage apprendre. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la généralisation des statuts. Ça va, ici, effectivement, des différences qu'on avait à l'origine vont s'amplifier dans le travail de groupe si on n'y prête pas attention. Donc l'idée effectivement de la structuration, c'est de faire en sorte que l'ensemble des élèves soit amené à participer, à être sollicité indépendamment de ces attentes-là. En prenant en compte les valeurs compétitives de notre société, on est effectivement dans une société qui valorise la compétition et les satisfactions personnelles en termes de valeur d'affirmation de soi, de réussite, de pouvoir sur les autres, mais aussi en termes de valeur d'ouverture qui pourrait être plus effectivement plus positive, plus perçue de manière plus positive, sauf que sur ces valeurs d'ouverture, on a l'autonomie. Ah, autonomie, j'ai peut-être pas besoin des autres, je veux montrer que j'arrive seule. L'hédonisme, la stimulation, donc des choses qui vont peut-être à l'encontre de valeurs coopératives qu'on essaye d'intégrer. Avec un système éducatif qui, avec des notes, avec une sélection, avec des orientations différenciées, ben, entretient effectivement ces valeurs compétitives. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment important de prendre les élèves là où ils sont, et ce n'est pas parce que vous leur proposez de coopérer qu'ils vont vouloir le faire et qu'ils sachent comment le faire, et donc de vraiment construire ce climat coopératif en justifiant aussi la coopération au service des apprentissages. Quand vous êtes en train de travailler ensemble et d'aider un copain, c'est pas simplement vous aider le copain, c'est le copain, il est en train de vous aider à apprendre parce qu'il vous donne l'occasion de verbaliser, d'expliquer, donc vous êtes bénéficiaire de ça. D'accord ? Donc retourner effectivement des fois le côté utilitariste pour entraîner aussi la coopération, construire cette coopération pas à pas pour bien travailler ensemble et effectivement de veiller à la cohérence dans l'institution et entre adultes de manière à ce que ces valeurs soit le plus cohérente possible et qu'on ne passe pas de l'une à l'autre sans trop de dommages. Et le dernier élément, effectivement, sur lequel je voulais revenir, c'est la motivation orientée sur les apprentissages et pas sur les performances. Effectivement, dans les situations scolaires, on peut avoir des buts d'accomplissement qui vont se décliner, je caricature un peu, d'accord, en deux grands types de buts. Le désir d'apprendre, de comprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'augmenter la maîtrise, de progresser. Donc ici, on est sur des buts de maîtrise. En termes, la référence, c'est moi, par rapport à ce que je savais faire avant de pouvoir progresser. Et effectivement, ça va s'opposer à des buts plutôt de performance, où le désir, ça va être de mettre en avant ses capacités, ses compétences, de générer une évaluation positive vis-à-vis des autres et comparativement aux autres. Et là, on est sur une compétence qui est socialement référencée. Je vais me comparer aux autres. Et du coup, pour moi, ça a vraiment une conséquence sur la coopération parce que si j'ai des buts de maîtrise, eh bien, effectivement, autrui, les autres élèves, ce sont des personnes qui possèdent des connaissances, des points de vue. C'est un support informationnel, ça m'aide à progresser. Alors que si je suis centrée sur un but de performance, autrui, c'est un compétiteur potentiel. Et donc, du coup, c'est une cible de comparaison, il va créer une menace, et du coup, bah oui, je ne vais pas aller rechercher de l'aide, surtout parce que chercher de l'aide, c'est dire que je ne suis pas capable. Donc, on a différents éléments comme ça, et avec, effectivement, alors on peut retrouver un autre acronyme que classe, on a Target ici, mais globalement, effectivement, on va favoriser l'orientation vers la maîtrise lorsque on va structurer la tâche de manière à réduire cette comparaison sociale. On va déléguer une partie de l'autorité en associant les apprenants à certaines décisions. On retrouve, eux, ils l'appellent autorité, on pourrait l'appeler autonomie. On va favoriser la reconnaissance de tous les élèves et pas seulement de ceux qui ont les bonnes réponses, valoriser les efforts, donc en termes de reconnaissance, regrouper les apprenants en stimulant l'entraide entre élèves, évaluer et traiter les erreurs comme des occasions d'apprendre et gérer le temps en limitant le stress. Donc c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre effectivement de favoriser qui vont favoriser effectivement cette orientation vers la maîtrise. Alors, c'est effectivement, quand on présente ça aux enseignants, on se dit « Ah ouais, mais ça devient tellement compliqué, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Pour moi, c'est à chaque fois une vraie question, Et effectivement, les... Ah oui, je vous l'ai remis, oh, en plus avec l'animation, c'est formidable. Donc, c'était juste pour vous dire, du coup, la pédagogie coopérative, vous avez compris, pour moi, c'est l'ensemble de ces éléments. Et est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, oui, ça demande beaucoup de temps. Ça génère une planification pour l'enseignant qui est extrêmement coûteuse en temps. C'est un risque de surcharge pour les élèves. Vous imaginez qu'ils ont la tâche scolaire plus l'ensemble des choses qu'on est en train de structurer, à gérer. Ça peut bousculer le fonctionnement spontané. Ben oui, on est en train de piquer la vedette à certains et d'en mettre d'autres un peu plus en avant. Ça peut être intrusif, surtout à certains âges où ils aiment bien qu'on leur fiche un peu la paix, d'accord ? Et c'est, je vous l'ai déjà dit, la planification est exigeante. Est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, si on regarde effectivement les résultats des recherches, ben oui, pour moi, je reste assez convaincue que ça peut valoir le coup en termes d'apprentissage, en termes sur la qualité des relations entre les élèves et entre les élèves et les enseignants. C'est aussi des pistes pour travailler les capacités transversales. C'est-à-dire, alors chez nous, c'est dans les plans d'études, on a des capacités transversales qui vont de 4 ans à 16 ans. C'est les mêmes, mais personne ne nous dit comment les travailler, mais elles sont au programme, d'accord ? Collaborer, communiquer. Donc pour moi, c'est réfléchir sur les stratégies. C'est un élément qui permet d'aller les travailler. Des pistes aussi pour le soutien pédagogique. Et du coup, on voit effectivement qu'on a des éléments qu'on peut retrouver aux différents niveaux d'enseignement. Donc, ça peut être intéressant d'aller réfléchir à ces éléments pour structurer. En écoutant l'introduction qui a été faite, je me suis dit, mince, peut-être que ce n'est pas du tout ça que j'aurais dû faire aujourd'hui et que j'aurais dû vous présenter d'autres choses, notamment sur l'implication des parents. Mais c'est des choses qu'on est en train de commencer, sur lesquelles pas suffisamment de recul, mais dans des écoles où à Genève, bon, déjà c'est, Genève est très internationale avec un certain nombre de fonctionnaires internationaux, mais en plus on a dans des contextes, dans des établissements, des élèves très hétérogènes, on n'a pas de ségrégation scolaire, et on a dans les mêmes classes à la fois des enfants de fonctionnaires internationaux et des enfants du foyer de requérants d'asile, qui est juste en face, avec sur des classes de 24, 17 langues différentes. Donc oui, des différences en termes de niveau socio-économique, mais en termes de langue, ils sont tous à la même enseigne. On en a un certain nombre qui sont allophones. Et donc du coup, on crée des activités en lien avec la coopération en allant mobiliser les langues d'origine et les cultures d'origine dans les activités scolaires, en mobilisant les parents pour créer des traductions, pour apporter le matériel qui serve et qu'on essaye d'intégrer dans des activités de français, dans des activités d'éducation civique, au programme pour essayer effectivement de valoriser ces différents élèves. Donc effectivement, peut-être que c'était un peu plus dans le thème de la journée, mais trop tard. Voilà. Je me suis dit, j'allais pas vous l'improviser. Je vous remercie.
Bonjour. Une des difficultés que l'on rencontre quand on est enseignant ou chef d'établissement, c'est de faire travailler l'équipe ensemble autour de la pédagogie différenciée et autour de ce projet. Parce qu'un enfant va passer, je pars d'un point de vue en primaire par exemple, va passer dans 5, 6, 7 classes tout au long de sa scolarité, de son parcours primaire. Et le jour où il tombe avec, entre guillemets, un enseignant qui va travailler avec ses méthodes coopératives, c'est un enfant qui va s'épanouir, se reconstruire, parfois, en tout cas, avancer, apprendre. Et il arrive parfois, voire même souvent, que l'année d'après, il se retrouve avec un enseignant, entre guillemets, ordinaire, ce n'est pas péjoratif, mais un enseignant qui va utiliser des méthodes un petit peu plus traditionnelles. Et le retour que l'on a souvent des parents, c'est « Ah ben avec vous, c'était extraordinaire, mais après, ça n'a plus été, et il y a eu un décrochage, par exemple, scolaire. » Donc comment est-ce que l'on peut travailler ce filage autre que l'enseignement dans les ESPE ou les ISFEC, au niveau de la formation des enseignants? Comment est-ce que l'on peut mettre ça en place et donner cette culture coopérative au sein des établissements?
Alors, oui, j'ai pas de recette miracle, vous imaginez bien. Une des pistes que je trouve intéressante, qui dans certains contextes, malheureusement pas dans le contexte suisse, mais dans beaucoup de, notamment aux États-Unis, quand ils sont formés les enseignants, dans certaines formations sur la pédagogie coopérative, il y a déjà les chefs d'établissement qui sont formés avant, pour qu'il y ait un soutien. Parce que oui, effectivement, ça nécessite ensuite du temps, des ressources, du matériel spécifique, mais aussi du temps de concertation. Donc, il faut que ça puisse être trouvé de la place après dans l'établissement. Et de venir, alors, soit par équipe. Alors, je ne dis pas que c'est toujours bien. Par exemple, moi, j'ai vu parfois en formation des équipes entières, des districts entiers qui étaient envoyés en formation sans l'avoir choisi. Ce n'est pas non plus cet extrême-là. Mais on a d'autres groupes de formateurs qui forment, qui proposent de venir au moins à deux enseignants. Parce qu'effectivement, non seulement c'est problématique pour les élèves qui doivent s'adapter, mais c'est aussi pour l'enseignant. S'il est tout seul dans son coin à essayer de mettre en place des choses, ça ne marche jamais comme on a prévu. On est bien d'accord. Donc oui, il faut pouvoir rebondir, et si on n'a personne à qui on veut en parler, ou si même, moi j'ai des enseignants qui, je leur propose des trucs, ils me disent « Ah, si le directeur passe à ce moment, il ne va pas être content parce que ça fait du bruit. » Ah ben oui, forcément ça fait du bruit. S'il parle, forcément ça fait plus de bruit. Donc y a l'idée d'avoir au moins deux personnes formées déjà dans un établissement, ça permet d'avoir des échanges, de maintenir la mise en place. Après, au niveau des élèves, j'allais dire, ben, s'il y a déjà un enseignant qui le fait, c'est déjà pas mal. Parce qu'effectivement, moi, souvent, ce que je m'amuse à faire dans mes recherches, c'est à tester sur des choses très courtes, en une séance. Aussi, pour pouvoir être crédible, de dire, oui, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait avant que vous ne pouvez pas faire là. Donc déjà, de comparer différentes structurations d'un travail en équipe, et de voir au niveau de la qualité des interactions, au niveau de la qualité des apprentissages, est-ce que ça change? Oui, parfois, ça peut changer même en une séance, même sur l'apprentissage des fractions. D'accord? Donc, c'est... Et puis, après, sur les enseignants qui ne font pas, c'est est-ce qu'ils ne font pas... J'allais dire, pour moi, la pédagogie coopérative, le problème, c'est qu'elle, oui, elle est complexe. Si on veut la structurer correctement, elle est complexe, et elle est d'autant plus complexe que pour structurer, pour moi, l'interdépendance et les responsabilisations, c'est-à-dire qu'il faut parfaitement connaître sa tâche. Quelles sont les activités que je veux que les élèves fassent? Et tant que je n'ai pas répondu à cette question-là, je vais avoir de la peine à introduire des responsabilités ou à créer de l'interdépendance. Donc, ce qui veut dire que, je trouve des fois, c'est plus facile pour des enseignants du secondaire. Ils ont une discipline, ils connaissent bien leur tâche, ils connaissent mieux la discipline. Pour des enseignants primaires généralistes, ce n'est pas toujours évident d'avoir cette connaissance-là. Donc, c'est d'avoir les connaissances. On a la question, dans les recherches qu'on mène, effectivement, on voit que la perception aussi des valeurs de l'école sont importantes. Donc, un travail au niveau des directions et de la cohérence d'établissement et d'un projet d'établissement, effectivement, peut permettre d'embarquer un peu plus, mais aussi, j'allais dire, qu'il y ait un peu plus d'activité, de choses réfléchies, pas seulement d'un côté didactique, mais aussi dans leur mise en œuvre. Donc, je ne réponds pas vraiment, mais... Je peux aussi demander si dans la salle, il y a des gens qui ont des idées pour répondre à cette personne.
L'élément important, c'est lorsque vous dites que même sur des temps courts, ça peut être efficient. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un enseignant, même avec une méthode traditionnelle, par exemple, utilise une activité sous forme coopérative pour qu'un enfant puisse à nouveau comprendre les fractions ou les tables de multiplication. Donc ce n'est pas obligatoirement une pratique annuelle, mais ça peut être également par moment.
Voilà, disons qu'à ce moment, on va vraiment rester dans ce que j'appelle l'apprentissage coopératif, c'est-à-dire sur cette tâche de groupe. Oui, il va manquer tous des éléments qui pourraient être plus porteurs, mais alors peut-être aussi une manière d'embarquer des enseignants qui peuvent avoir, on va l'appeler plus traditionnel ou plus transmissif, c'est simplement de réaliser que ben, si Il continue à faire la même chose, mais en introduisant des moments où il propose des interactions simultanées, c'est déjà un début. C'est déjà quelque chose qui favorise ces interactions, qui favorise une prise d'information, qui favorise une proximité. On peut déjà rentrer là-dedans. Donc, c'est sans avoir à tout bousculer.
Merci.
Non, c'est toi qui tiens, d'accord. Sur la question que tu n'as pas eu le temps d'aborder, moi j'appellerais ça apprentissage coopératif, mais pédagogie alternative coopérative. Je serais intéressé de savoir quelle différence, parce qu'il me semble que c'est une pédagogie de la forme scolaire que tu présentes, et qui est très intéressante parce que justement elle est peut-être facilement mise en place, à mettre en place dans les écoles. Mais du coup, en entendant les mots explicitation, je me posais aussi la question de... Aujourd'hui, on a tout un courant des pédagogies explicites qui dégomment l'apprentissage coopératif. Donc je voudrais savoir quel est ton positionnement par rapport à ce courant qui nous... Voilà, c'est deux ouvertures, en fait.
Alors, du coup, peut-être aussi, moi, je suis rentrée effectivement par cette pédagogie de la forme scolaire parce que j'y suis rentrée en tant qu'enseignante universitaire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce niveau-là avec les contenus, effectivement, universitaires que j'avais à enseigner. Donc, ça colore aussi beaucoup l'entrée que j'ai pu avoir. Et ça va être effectivement dans ma réflexion, toujours, les interactions sociales au service des apprentissages scolaires. Donc, ça, c'est clairement une entrée. Et c'est pour ça que j'ai dit, voilà, l'approche que je vais prendre. Après, pour moi, ce qui est vraiment important... Finalement, c'est de se dire, ce que je vise, c'est mes interactions constructives entre élèves. C'est ça que je vise. Qu'on y rentre par les principes de la pédagogie coopérative ou par d'autres principes, finalement, si je sais ce que j'ai envie de voir faire mes élèves et que je les aide à trouver comment le faire, je ne suis pas dogmatique par rapport à ça. Des fois, mes enseignants me disent « Oui, mais ça, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'apprentissage ?» Je m'en fiche. Est-ce que vous les avez amenés à être en interaction ? Est-ce que cette interaction leur a permis de progresser dans leur relation sociale et dans leur apprentissage ? C'est ça qui peut m'intéresser. Donc, et après, moi, je suis à l'aise avec ça parce que ça correspond à certaines choses que j'ai envie de voir avec les élèves. Mais voilà, c'est pas ça mieux que d'autres choses. Donc c'est vraiment c'est pour ça que maintenant je le mets vraiment au cœur, ces interactions-là, et d'expliciter. Donc c'est un prétexte à expliciter. On peut le faire sous d'autres formes, on peut le faire. Quel est ton point de vue à toi ?
Je vais avoir la parole cet après-midi. Non,
la question, c'est vraiment sur les pédagogies implicites, ce qui est reproché à ces modèles. Non, c'est que ça pourrait invisibiliser les savoirs parce que les élèves n'ont pas ne perçoivent pas forcément ça comme des moments d'apprentissage.
Si je fais ça dans mon amphi la semaine prochaine, je pense que les étudiants vont se demander si je suis un vrai prof. Déjà qu'ils se demandent un peu. Donc, et donc voilà, donc c'est cette tension-là qui je trouve le modèle extrêmement intéressant. Mais du coup, il suppose peut-être une... l'apprentissage d'un nouveau métier d'élève, je crois que c'est aussi ce que disait le collègue. Et du coup, c'est pour ça que dans le modèle anglo-saxon, je suis assez intrigué par ce qui se dit aujourd'hui sur les pédagogies explicites. Il me semble que tu proposes un autre modèle de pédagogie explicite qui m'intéresse. Mais est-ce qu'il est dialogué avec ce que nous vend de Clermont-Gauthier au Québec sur l'idée du retour aux bonnes vieilles méthodes comme explicitation, par exemple? C'est là-dessus...
Disons que, alors pour répondre à la question de comment les élèves peuvent le percevoir, la première fois, oui, effectivement, ils le perçoivent peut-être un peu bizarrement. Quand ils s'aperçoivent que ce qui a été discuté entre eux est repris après, est réexploité dans les autres formes, au fur et à mesure, ils comprennent. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment cette différence-là. Et ce qui est fondamental, c'est qu'ils comprennent qu'en tant qu'enseignant, c'est toi qui fais le cours, c'est toi qui fais l'évaluation, et ce que tu es en train de leur dire, c'est que je m'en fiche si on ne va pas jusqu'au bout, mais je veux que ce qu'on voit ensemble, vous le compreniez vraiment, et pas simplement pour le bout de l'examen qui vous attend après. Et je pense que ça change aussi la nature des interrogations. Moi, je le vois notamment quand j'enseigne des choses sur la méthodologie expérimentale dont ils raffolent absolument tous. Ils se disent que vraiment, ça n'a rien à faire en éducation et mes collègues vont bien dans ce sens-là. Donc, ils ont pris ce cours-là certainement parce que les horaires les arrangent. Mais au fur et à mesure, ça génère des questions que je n'avais pas les premières années quand je ne le faisais pas aussi ouvertement, lorsque je ne faisais pas trop, justement, en disant « Ouais, mais ils vont penser que c'est parce que je ne veux pas enseigner. » Et effectivement, là, on a vraiment un type de questionnement qui change et qui est beaucoup plus sur les contenus travaillés que sur les à côté. Donc je pense que c'est le fait de le faire régulièrement et de le faire très ouvertement et d'expliciter aussi. Parfois, moi, je leur dis, ben voilà, je vous demande de le faire parce que je sais très bien que les années précédentes, je vous propose la définition, vous me dites tous c'est clair. Sauf que je m'aperçois que non, vous ne l'avez pas compris. Donc on va bosser là-dessus et je veux que vous me donniez des informations sur comment vous le compreniez. Et voilà, c'est...
Merci Céline pour ton exposé. Moi, je me posais une question quand même qui est celle de... Dans la constitution des groupes, je pense en école élémentaire, au collège, au lycée, il y a des jeunes, des enfants, des élèves qui ne sont pas... qui sont vraiment très impopulaires, qui sont vraiment mis sur le côté par les autres. Comment eux... Comment ils sont perçus quand ils sont dans un groupe? C'est-à-dire que tu les places toi-même ou que finalement, par défaut, il y a un groupe qui accepte la présence de celui qu'on ne peut pas sentir. Et est-ce que les consignes suffisent à ce que finalement, tout le monde l'intègre, enfin tout le monde du groupe l'intègre et se mette au travail? Est-ce que finalement, l'animosité qu'on peut avoir pour une personne ne prend pas le dessus sur le travail?
Alors, c'est pour ça que pour moi, les principes qui sont juste au niveau de la structuration des activités scolaires ne sont pas nécessaires, justement pour ces cas de figure-là, et qu'on a besoin de travailler, j'allais dire, pour les deux parties, c'est-à-dire travailler les habiletés coopératives, travailler le climat, ça veut aussi travailler l'acceptation de la différence, ça veut aussi dire aussi travailler pour celui qui est impopulaire, en principe, c'est parce qu'il se comporte d'une certaine manière, de peut-être lui donner d'autres alternatives de se comporter, et par la structuration des consignes, mais aussi par tout ce travail sur ses habiletés coopératives, ce qui est attendu, comment on peut le faire. Alors après, c'est pas plus magique qu'autre chose, on est bien d'accord, malheureusement, mais c'est pour ça que je disais, moi j'aime beaucoup les groupes aléatoires, et quand ils sont formés à partir d'une activité. Je prends un exemple bateau qui me vient en tête, je ne suis pas sûre que ce soit le plus pertinent, mais on va faire une tâche de maths. Ben pour faire les groupes, c'est effectivement, tu peux distribuer des petits cartons, ils ont des calculs à faire, et puis ensuite ils vont chercher ceux qui ont le même résultat qu'eux avec un calcul différent. Et donc du coup, ils sont plus centrés sur « j'ai ce calcul-là, toi t'as quoi ? Ah ouais, mais attends, est-ce que t'as bien fait ?» Et à un moment donné, ils découvrent qu'ils sont avec cette personne-là dans le groupe. Donc déjà, ça désamorce un peu le « non, pas lui. » Ce qui, même si ça le désamorce qu'un peu, pour moi, ça évite que ça parte en... Je vais dire parte en live, c'est que ça parte n'importe comment d'entrée. Donc, c'est pas si mal. Donc, et c'est un peu dans ces optiques-là, et puis aussi dans et c'est pour ça que je dis que la planification, pour moi, est très exigeante, parce que du coup, on peut arriver, par exemple, à structurer des activités pour cet élève-là. Et créer une activité dans laquelle, à un moment donné, cet élève-là va avoir une responsabilité dans laquelle il est à l'aise, où il peut apporter au groupe, et que ça va pouvoir être utilisé, valorisé comme expérience, j'allais dire, hop, pour après. Mais c'est pas magique, on est bien d'accord.
Oui, moi, je voulais réagir peut-être par rapport à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Ça me faisait penser un peu à ce questionnement qu'on a toujours enseigné. Est-ce que c'est cheminer avec, en ayant fait un chemin qui n'est pas celui que l'élève fera, mais qu'on accompagne, ou est-ce que c'est conduire et savoir déjà où on va? Et ce qui renvoie aussi alors à la question peut-être du statut de l'enseignant. Enfin, moi, j'ai été enseignant dans un autre continent, donc, et je ne le suis plus aujourd'hui. Je suis directeur de l'éducation d'une ville, mais je me pose la question par rapport à mes collègues Et je me dis en cascade, sans doute, eux, quand ils sont auprès des enfants, dans leur façon de les accompagner, ça a sans doute une incidence forte. Mais moi, je considère, enfin, il me semble qu'il est important de cheminer avec et d'accompagner de façon bienveillante et d'accepter aussi de ne pas savoir. Et peut-être, c'est là qu'on se pose toute la question. Moi, je n'avais pas conscience que vous posiez la question. Bah ouais, est-ce que je suis vraiment enseignant? Moi, parfois, je me pose la question, est-ce que je suis directeur? Mais pour autant, on apprend aussi. Enfin, moi, j'apprends de mes collègues, eux apprennent de moi. Enfin, on apprend ensemble. C'est bien la relation d'apprentissage, en fait, qui est en jeu pour moi, au-delà du statut.
Vous attendez une réaction ou c'était un... Oui, mais de sa part à lui.
Pour préciser ma question, en fait, c'est que en France, je crois que le terme pédagogie coopérative, il ne renvoie pas exactement à la même chose. Je pense aux travaux de Sylvain Connac, pour ceux qui connaissent, où en fait la notion de pédagogie coopérative est beaucoup plus associée aux pédagogies alternatives venant des approches freinées, ou c'était un peu ça le sens de ma question, qui effectivement consiste à mettre les enfants en groupe, mais dans des processus moins didactisés que ce qui est proposé ici. Et donc je pense que les deux approches se rencontrent. Hein. Et donc dans ces pédagogies, il y a beaucoup plus de postures d'accompagnement. Donc quand on pratique ces pédagogies-là à l'université, par exemple, pour les étudiantes, c'est parfois un vrai choc parce que c'est pas du tout l'image qu'ils ont, regardez ce magnifique amphithéâtre, qu'ils ont de la situation d'apprentissage à l'université. Donc c'était, moi je partage complètement votre point de vue dans cette articulation conduire, accompagner. Mais effectivement, une méthode pédagogique, souvent ce qui résiste le plus, c'est le sujet à qui elle est proposée parce qu'il est déstabilisé par la méthode. Voilà, c'était moi
je... Pour rebondir dessus, effectivement, c'est pour ça que j'ai bien dit, c'est dans cette perspective que je m'ancre, et effectivement, dans une perspective qui est très centrée sur les apprentissages, et tout ce qui est interdépendance et responsabilisation va être centré sur la tâche scolaire. Et après, on va greffer les autres éléments, et là-dessus, on peut avoir, et avec Sylvain Connac, effectivement, on peut avoir des choses assez, j'allais dire, des fois même diamétralement opposées. Parce qu'ici, bah des fois, je dis à mes enseignants en formation continue, en fait, on est un peu des dictateurs en douceur, parce qu'on va jusqu'à leur proposer comment interagir, comment faire, comment... Mais moi, je l'assume entièrement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il suffit de savoir ce qu'on est en train de faire et de pouvoir répondre en disant « Oui, je vous propose d'essayer ce mode d'emploi-là, et ensuite, on en cause. » Et effectivement, de leur expliciter pourquoi... Et je pense que, moi, ça me permet de l'utiliser dans beaucoup plus de situations qu'avant, parce que je l'assume entièrement et que j'ai aucun souci de ce côté-là, comme j'ai aucun souci quand on me dit « Oui, mais en fait, tu sais pas ce qui se dit dans les groupes. » Je dis « Non, mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. J'en ai strictement aucune idée. Je peux essayer d'interpréter vos visages, vos choses, mais j'en sais rien. » Tandis que si je les mets à discuter, c'est sûr que je ne vais pas avoir tous les groupes en parallèle et que je vais louper plein d'informations, mais par contre, j'en gagne quand même. Et parfois, je sais exactement, quand je pose cette question-là, vers quel groupe je vais aller tourner parce que ça m'intéresse de savoir ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc du coup, là-dessus, moi, je suis relativement à l'aise en me disant non, ce n'est pas plus magique qu'autre chose, je ne vais pas embarquer tout le monde. Peut-être pour répondre à ta question... Dans les évaluations des enseignements par les étudiants, effectivement, sur un amphi, j'en ai souvent 2-3 qui vont me dire « Vous nous prenez pour des bébés ». Bah oui, j'assume. Bah peut-être ceux-là, c'est ceux qui comprennent super vite et que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, leur proposer des choses beaucoup plus complexes. Mais il se trouve que pour cet amphi de deuxième année, je préfère aller repêcher ceux qui ont un peu plus de difficultés et le travailler différemment, même si je fais moins de contenu qu'avant. Donc maintenant, je sais que j'ai un chapitre joker, qu'en principe, il est prêt, mais qui passera à la trappe. Voilà. Mais oui, pour certains, ça peut être problématique en disant « mais on ne va pas assez loin, on ne creuse pas assez ». Alors pour cela aussi, moi, souvent, je vais aller souligner que le fait d'avoir dû expliquer aux copains, d'avoir dû verbaliser beaucoup plus, peut-être que ça leur a permis aussi de comprendre les choses différemment, y compris pour eux. Mais après, je pense qu'on propose les choses aussi avec lesquelles on est à l'aise.
On prend une dernière petite question et petite réponse, enfin, petite remarque et petite...
Ça prolonge ce qui vient d'être dit. Moi, je m'interrogeais sur la place, finalement, des enfants ou des étudiants dans cette... alors, peut-être pas tellement dans l'organisation, mais dans la préparation, dans la phase de préparation. Et je me disais, ben finalement, voilà, quelle place on leur accorde. Donc, il y a des choses qui ont été évoquées là-dessus. Et je me demandais si on ne pouvait pas aussi aujourd'hui s'appuyer sur de nouveaux outils, les plateformes collaboratives, des outils de mutualisation qui font que peut-être en amont, on peut davantage responsabiliser les étudiants, tant dans l'organisation que dans la planification, dans la préparation aussi. Du moment de ce temps de travail coopératif. C'est-à-dire que tout ne passe pas effectivement par l'enseignant, mais qu'il y ait peut-être d'autres... Il y a peut-être quelque chose à inventer et certains outils pourraient peut-être... Enfin, c'est très conditionnel ce que je dis. Pourraient peut-être nous aider dans cette...
Alors, deux réponses courtes. La première sur la place des enfants... dans la préparation, mais pour moi, je ne l'ai pas forcément illustré ici, mais quand on va travailler les habiletés coopératives, par exemple, ça va être vraiment, c'est construit collectivement. Et on va reprendre les mots, les expressions des enfants, les inscrire de manière à ce que ça soit leurs mots à eux, rebondir. C'est eux qui alimentent aussi la réflexion critique. Alors oui, bien sûr, on va jouer le rôle de modèle, parce que ce n'est pas forcément évident au départ, mais d'aller expliciter comment ils s'y sont pris, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Donc ils sont partie prenante là-dedans. Avec des plus grands, on va très vite se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler la classe inversée. C'est-à-dire qu'une fois, moi, j'ai eu des discussions, d'un coup, je me dis, ah, mais attends, c'est ce que je fais, ça s'appelle peut-être de la classe inversée. Quand je leur demande de préparer des choses, de le mettre sur la plateforme avant, et puis ensuite d'en discuter, voilà. Donc, on peut se rapprocher de ce genre de choses. Après, il y a toute une réflexion pour moi sur l'écriture collective, sur laquelle je ne suis pas du tout au clair, parce que plus ça va, plus je leur fais discuter de ce qu'ils ont écrit, mais pas forcément écrire ensemble, parce qu'autrement, je trouve que là, on s'éloigne des contenus parfois, où ça va batailler sur des formulations, des choses. Je suis pas prof de français, donc je m'en fiche, en fait. Donc, du coup, sur l'écriture, je suis un peu plus réticente sur l'écriture ensemble. J'ai encore pas trouvé, moi, dans mon mode de fonctionnement, comment l'utiliser avec mes étudiants universitaires. J'ai des collègues qui font ça super bien au secondaire, qui font des trucs magnifiques, mais vraiment, c'est tout le cours qui est organisé sous cette forme-là, où les élèves du secondaire vont créer le fascicule de cours qui sert à l'examen de maturité, c'est-à-dire l'examen du bac, dans leur discipline fondamentale. Mais ça nécessite un autre type de fonctionnement. Voilà, mais oui, on peut arriver à des choses... De classe inversée où il y a du boulot qui se fait en amont pour qu'en séance, ça soit les éléments qui soient discutés sur ce qui a déjà été travaillé avant. Merci.